Bonjour, bienvenue sur Radio Méga, dans notre émission Underscore. Cette semaine, faisons le tour du circuit dans le monde électronique. Encore une balade musicale qui va vous étonner.
Bonjour Mémuman.
Bonjour Cécile. Et bonjour Madbelle.
Bonjour.
Bonjour Cécile. Bonjour les auditeurs.
Madbelle qui va remplacer Roudoudou cette semaine.
Oh, salut.
Ouais. Oui, parce qu'on a perdu Roudoudou, je crois qu'il s'est perdu en randonnée.
Bah ah. Oui, en fait, c'est clair que ça faisait tellement longtemps qu'il n'était pas sorti que là, il fallait nécessairement qu'il...
On va pas le plaindre.
Non, il était belle balade.
Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que cette semaine, on va aussi parler de balade musicale, mais plutôt d'instruments, c'est bien ça, Madbelle ?
Oui, c'est cela.
Mais tout de suite, un petit peu d'actualité ?
Qu'est-ce qu'on a, Zalactu ?
Alors, oui. La QMU version 5 est sortie avec du 60K au menu. Cela fait un moment que certains s'échinent à ajouter le support de nos vieilles machines quand QMU, et ça commence à porter ses fruits, notamment la cible Macintosh Quadra 800, MQ800, permet d'émuler un Mac avec un 68040 à près de 1 GHz, suffisamment bien pour démarrer Linux. Une cible NextCube est aussi disponible, mais ne boot pas encore en plein. Perso, ouais,
J'ai mis à jour le début de cible Firebee qui a été commencé par Torlus, mais de toute façon, ça ne marche pas encore.
D'accord.
Madbelle, tu veux lire le second ?
La Hadopi fixée sur son sort pour le Conseil constitutionnel le 20 mai. C'est le 20 mai que le juge suprême rendra sa décision relative à la question prioritaire déposée par la quadrature du net, French Data Network, francilien, et la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif.
Et puis, ben, on va se faire l'effet du mois. Hein ?
Oui, oui. Amazon aurait exploité les données de vendeurs tiers sur sa plateforme pour lancer des produits concurrents.
Une mise à jour de Windows 10 qui casse Chrome.
Oh. Une énorme fuite de données suite au piratage du laboratoire P4 de Wuhan.
Une fuite de données d'une base de Figaro, y compris les données personnelles et les mots de passe des utilisateurs du site.
Une campagne de phishing hameçonnage par des fausses notifications Microsoft Teams pour obtenir l'accès au compte Microsoft 365. Pour l'instant, cette campagne est uniquement en anglais. Pour l'instant.
Les serveurs de LineageOS, une version libre d'Android, piratés à cause d'une vulnérabilité dans le logiciel Salt de gestion de déploiement des serveurs.
Zoom n'est pas le seul à être critiqué pour leur gestion de données personnelles WebEx, MS Teams et Google Meet aussi.
Une vague de vandalisation de grosses fibres en région parisienne.
Un site de Sexcam a laissé ouvert un serveur contenant 7 téraoctets de données d'utilisateurs. Voilà ce qu'annonce le site de sécurité Safety Detectives. Le serveur a pu être découvert au moyen de Shodan, un moteur de recherche de base de données insécurisé.
iOS, Facebook a causé des pannes sur de nombreuses apps, dont TikTok, Tinder ou Spotify.
En parlant de Facebook, il vient de s'acheter Giphy pour 400 millions de dollars.
Ouais, un truc pour héberger des gifs, je comprends pas, mais bon. Une vulnérabilité déjà patchée dans tous les téléphones Samsung depuis 2014.
Un bootnet a été découvert qui aurait servi pendant 8 ans à télécharger des animés.
Le compte GitHub de Microsoft aurait été compromis, 500 gigas de données auraient fuité. Oh.
Des traders perdent des millions à cause du prix négatif du pétrole qui fait bugger leur logiciel. Bien fait ?
Yes. Une base de données Firebase de Google qui expose des données personnelles et qui est utilisée par plus de 4000 applications Android.
Une nouvelle arnaque en ligne qui demande de rappeler un numéro en 0820.
Les US accusent la Chine de piratage autour de la recherche de traitements et de vaccins contre le coronavirus.
Des développeurs de Huawei envoient un patch à la Fondation Linux qui contenait une backdoor.
Une entreprise au cœur du réseau électrique britannique atteinte par des hackers.
Et enfin, un nouveau virus pour Amiga. Ouais. Vous voyez que c'est pas une plateforme rétro.
Vive Amiga.
Allez, on se fait une petite pause.
Avec okay. Virgil de Interférence.
Interférence.
C'était Virgile Interférence de la bonne attitude, comme on aime bien. Et tout de suite, notre spécialiste en musique électronique, Matt Bell, va vous proposer son sujet.
Alors,
on t'écoute.
Voilà, donc aujourd'hui c'est Oram, son instrument et sa philosophie. Donc l'instrument de Oram, c'est le Dioracmix. Malgré les nombreuses commandes qu'elle a prises après son départ de la BBC, l'activité la plus importante et la plus longue a été la construction de la machine Oracmix. Dans une lettre de Davis, elle a écrit « Il y a tellement à faire dans le domaine de la musique et du son que nous avons besoin d'au moins une douzaine, demi-douzaine de vies ». Déplorant la distraction inévitable que représentait le fait de gagner sa vie. Bien qu'elle ait reçu deux bourses de Gulkan de 3350 livres en 62 et 1000 livres en 65, elle a été obligée de prendre des commissions pour obtenir un revenu car les dépenses d'achat du matériel nécessaire à sa machine ont épuisé ses fonds. Cela a relégué son travail expérimental à une activité fébrile pendant son temps libre. Dans une lettre datée du 15 juillet 1963, elle a décrit quand Fred Wood, l'un des ingénieurs qu'Oram a été embauché pour aider la construction des Oracmix, que je me concentre au Death Wave, je néglige la cuisine et nous prenions des repas comme nous pouvons. La machine Oracmix est au cœur du travail de Ram et également un exemple de philosophie de la musique électronique expérimentale. Avec les Oramix, Oram a cherché à explorer davantage les possibilités offertes par la technologie pour produire des sons. L'idée de l'Oramix est née d'une session de formation à la BBC en 1947, où Oram a assisté à une démonstration par le professeur Arnaud d'un oscilloscope qui a permis le traçage graphique d'un phénomène acoustique. Cela a inspiré Oram à vouloir inverser le processus et aussi à générer de sons à partir d'une image graphique. Ainsi, le noyau de la machine était dessiné sur un film de 35 mm qui affecterait les paramètres des sons générés par la machine. Il y avait eu un certain nombre de personnes qui avaient déjà utilisé cette technique. Une telle pratique a ses origines dans l'introduction de la bande sonore optique intégrale, une avancée qui a été conférée une visibilité au son sur film. Les informations apparaissaient comme un contour sur un côté des images. En 1917, le Sud-Africain Heinrich Jonas van der Bijls étudie cette technique chez Western Electric à New York. Dans les années 20, les cinéastes russes Arsenoui Avramov et Yevgeny Shlopo ont manipulé la représentation graphique du son sur film pour créer les mélodies microtonales de la musique folklorique russe. Shlopo a ensuite construit le Variophone en 1930 au Landfill, au studio de production à Leningrad, un artefact musical qui exploitait spécifiquement la technique du son dessiné. Parmi les premiers instruments à utiliser cette technique, on compte l'orgue Yuzhno en France en 1921, le cellulophone en France en 1927 et en 1930, le Suisse Rudolf Feininger réalisa un film de démonstration de la technique du son dessiné intitulé de manière suggestive « Tonnenhandschrift », écriture sonore. Avec les progrès réalisés dans les circuits électroniques au cours des années d'après-guerre, l'utilisation du son dessiné a diminué, la bande magnétique offrant une alternative plus efficace. Néanmoins, en 1977, cette technique a été relancée dans l'outil UPIC, Unité Polygogique Informatique du CMAMU. Développé par Yanis Xenakis, Centre d'études des mathématiques et automatique musicale, le CMAMU à Paris. Avec UPIC, il était aussi possible de dessiner des formes d'ondes et des enveloppes du volume en déplaçant un stylet avec une tablette électromagnétique. Ce temps réel au dessin est une caractéristique qui n'avait pas pu être obtenue avec l'Oracmix. Malgré le déclin du type de son dessiné utilisé par les Oracmix, cette technique est restée au cœur du son de son système. Même dans sa tentative de conversion à la technologie informatique RISC dans les années 90, le son dessiné était non seulement le cœur des Oracmix, mais aussi fondamental pour comprendre la philosophie de la musique d'Oram. Alors, Oracmix, de la vision à la réalité, le son traité. Donc ici, on affichera un schéma qui explique le fonctionnement de la machine en effet. Alors aussi, il y aura, donc en 2012, il y a eu un sound contest, une bataille pour avoir pour répliquer les sons que, ou même les musiques, qu'on voit, pour dire, de Oram. Donc il y a un song contest et sur le lien qu'on mettra du SoundCloud, il y a tous les vainqueurs. Donc voilà comment fonctionne. Pour avoir un contrôle complet du timbre et de la hauteur et de la dynamique du vibrato, de la réverbération, de l'attaque, du déclin, le timbre change dans la note. Il y a un contrôleur de caractéristiques sur une forme visuelle afin que toutes les modifications auriculaires, la compréhension de l'oreille et de l'esprit humain ont une contrepartie facilement reconnaissable dans le support visuel. Pour atteindre cette complexité, contrôle de la forme d'onde, tout en gardant tous les paramètres à l'intérieur de l'étendue des formes d'onde écrites. Pour obtenir des sons plus musicaux que ceux obtenus par des appareils électroniques qui ont une plus grande gamme de timbres. Puis il y a une deuxième version qui a été améliorée par Oram elle-même, l'évaluation des pouvoirs de l'oreille et de l'esprit humain pour comprendre l'acoustique sensation en dehors de celle normalement employée dans la musique occidentale, compréhension des intervalles de fréquences non utilisées dans l'échelle chromatique, compréhension des schémas rythmiques et des durées de notes, compréhension des changements tonaux de durée variable et des fondamentaux des différentes fréquences et la conception électronique pour répondre aux exigences de ce qui précède l'évaluation. Alors, l'application de ce qui précède dans les techniques de composition pour produire une forme d'art, les sons électroniques doivent être soumis à une organisation complète par l'esprit humain. Les règles techniques employées doivent être itinérantes au support lui-même, de ne pas être imposées uniquement parce qu'elles existaient auparavant dans une autre forme de composition musicale. Pour l'étude du son et pour composer de la musique en dehors du cadre actuel d'instruments d'orchestre, destiné à construire un appareil électronique, appelé ici l'instrument à ondes sonores, qui convertira les informations dessinées en son. Le compositeur dessinera à la main une demi-douzaine de motifs, au plus qui donneront aux appareils électroniques non seulement les couleurs de base complexes de tonalité, mais les informations sur la façon dont ils doivent être mélangés, remodelés, lancés, formulés, contrôlés dynamiquement et résonance aussi. Le résultat sera une ligne de musicale enregistrée sur une piste d'une machine d'un enregistrement multipiste. De nombreuses lignes peuvent être de cette manière ou plus tard combiné pour réaliser la composition finale qui se présentera donc sous la forme d'une bande enregistrée. Les effets de bruit des sons en dessous et au-dessus du son humain de l'oreille, quoi, des résonances induites à des rythmes insistants et étranges pourraient être étudiées par l'utilisation de cet instrument à ondes sonores. À la fois les mauvais effets sur la santé et les nerfs et tous les effets thérapeutiques possibles par l'utilisation contrôlée du son musical. La référence à un enregistreur multipiste est particulièrement intéressante en tel qu'elle reconnaît plusieurs besoins d'utiliser un tel dispositif pour assembler une œuvre polyphonique, étant donné comme la plupart des enregistreurs de nos jours. Maintenant, on va parler de la philosophie du son d'Oram. Oram Mix représentait l'application à un projet pratique de la métaphysique d'Oram. En effet, Oram croyait que cette machine reproduisait le fonctionnement de l'organisme humain ou du psyché. Dans son livre en 1972, An Individual Note, Oram a développé la théorie de l'Elec et du Selel, qui représentait deux extrêmes dans un continu intangible et tangible, qui pour Oram symbolisait le cycle de vie. Oram a décrit l'Elec le ciel, comme deux forces qui, selon elle, étaient en jeu dans l'art comme dans la vie et dans la relation dialectique, à façonner la composition musicale, la performance et l'écoute. Pour Oram, la technologie a facilité la connexion, l'équilibre de ces deux forces. La polarité de ces deux processus concurrents mais complémentaires s'est manifestée par l'inversion de leur orthographe. Inspiré par le temps de la libération d'énergie d'un condensateur, Oram a compris que l'élec, pour indiquer le flux électrique d'énergie qui a suivi l'étincelle d'inspiration d'un artiste, et le célèbre d'autre part qui a indiqué l'émergence dans une forme matérielle de cette essence intangible. Ainsi, on peut comprendre que l'énergie, ou élec ou cèle, dans le système d'Oram se transforme parfaitement de la métaphysique à la physique, du cérébral à l'électrique et de la psychologie à la musique. Oram croyait que la technologie électronique aurait dû provoquer la conquête de l'univers de tous les sons, une attitude prométhéenne répandue dans le milieu culturel du modernisme. RAM décrit le RACMEX comme un système de contrôle, un programme qui met en pratique les théories scientifiques en utilisant les connaissances mathématiques formelles. RAM a compris que le RACMEX, comme une technologie qui étendait le pouvoir d'un compositeur sur son médium, le but de RAM avec les RACMEX était en effet d'exercer un contrôle total sur le monde du son, d'avoir à sa disposition ce que Leopold Stokowski, dans Music for All en 1943, envisageait comme tous les timbres possibles dans la nature. Dès Oramix, a déclaré « Je visualise le compositeur apprenant un alphabet de symboles avec lequel il en serait d'indiquer tous les paramètres nécessaires pour construire le son dont il a besoin. » Ces symboles dessinés par lui à main levée sur une feuille de papier ordinaire seront transmis à l'équipement et le son résultant sera enregistré sur le bord magnétique. De cette façon, un brin de musique se constituera. L'équipement lui-même ne sera pas un robot. Il n'aura en aucune part dans la composition ou la sélection du matériel musical. Il ne sera que là pour convertir les symboles dessinés en son. Il n'a pas d'esprit propre. En effet, la machine visait à élargir la gamme et la discrétion du contrôle du compositeur sur les paramètres sonores. Il a facilité la traduction de l'étincelle initiale du compositeur en quelque chose de tangible sans provoquer d'interférence. Se référant aux RACMEX, elle a suggéré de vous imaginer un peintre de son. Votre toile vierge est un morceau de bande magnétique d'enregistrement. Le tout évolue comme une peinture à l'huile. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de son que vous pouvez imaginer pour n'importe quelle durée, avec n'importe quel rythme, à n'importe quelle hauteur. Lorsque l'atelier radiophonique de la BBC a été créé, Oram a épinglé à une porte une citation de Francis Bacon. The New Atlantis. Ce même extrait a été réimprimé dans le traité de RAM, un individual note, et sur une brochure annonçant les installations de son studio à Fairfield, Bacon. Nous avons également des maisons de son où nous pratiquons et démontrons tous les sons et leur génération. Nous avons une harmonie que vous n'avez pas, des quarts de son, des diapositives de son moindres, divers instruments vous sont également inconnus. Certains plus doux que les autres, avec des cloches, des anneaux, délicats et doux. Nous représentons des petits sons aussi grands et profonds, de même que grands sons atténués et nets. Nous faisons des plongeurs, des tremblements de terre, dans leur originalité, sont entiers. Nous représentons et imitons tous les sons et les lettres articulées, ainsi que les voix et les notes des bêtes, des oiseaux. Nous avons certaines aides qui, mises à l'oreille, favorisent considérablement l'audition. Nous avons aussi diverses échos étranges et artificielles, reflétant la voix à plusieurs fois, et même ainsi dire le jeton de certains qui rendent la voix plus forte qu'elle est venue. Certains stridents, certains plus profonds, ou certains rendant la voix différente dans les lettres ou le son articulé de ce qu'ils reçoivent. Nous avons tous les moyens de transmettre des sons dans des troncs et des tuyaux, dans les lignes et des distances étranges. Les paroles de Bacon doivent avoir résonné avec Oram, non seulement en raison de leur préscience et développement des futurs, des possibilités acoustiques technologiques auxquelles elle a contribué, mais aussi en raison de la défense de la capacité de recréer tous les sons articulés, une ambition qui était une récurrente thème de la musique électronique expérimentale. La capacité d'exercer un contrôle total sur les phénomènes sonores pour Ram était en effet intimement liée à la technologie. Selon elle, la musique et la technologie favorisait le développement de l'autre.
Tout à fait, comme une synergie, tout à fait.
Et voilà, oui, il y a eu par après aussi d'autres expérimentations, notamment avec le fameux groupe Art of Noise, qui ont repris le fameux effet de RAM avec la musique expérimentale. Mais là, c'était à partir de samples, mais toujours avec une vision, parce qu'ils allaient voir un paysage, et c'est d'après ce paysage que leur remettaient dans leur esprit, qui réfléchissaient à cet esprit et qui composaient. C'était souvent dans le groupe, il y avait souvent des scientifiques qui s'exprimaient avec le son. Voilà.
D'accord.
Super. On vous laissera des liens sur AAA.fr où vous pourrez écouter des extraits du sujet qui a été présenté aujourd'hui par Matt Bell. Merci pour ta présentation de ce sujet. On fait une petite pause pour l'agenda tout de suite après.
Ok.
À tout de suite.
Thank you.
Captain Mage, Space Debris.
Ouais, ça poutre.
Ouais, certains ils connaissent très très bien ce morceau. Ça leur rappelle des vieux souvenirs de nos vieilles machines.
Ouais, j'avais pas envie de couper. On est déjà en retard de toute façon.
Oui,
on voilà. Passe à l'agenda ?
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée, lors des rediffusions le samedi.
Alors, je vous ai pas trouvé grand-chose, mais quand même, pique-nique virtuel de 3L, donc de 17h30 à 18h30, alors c'est le lundi 18 mai, c'est un pique-nique virtuel, c'est dur à dire, c'est nos amis québécois qui organisent ça, donc de Montréal, mais c'est virtuel, donc on peut aller les voir, faut pas se tromper d'horaire. Donc voilà, on pourra manger tout en jasant sur le libre. Cette rencontre sera animée par Lou Deville. Venez célébrer avec nous l'arrivée du beau temps tout en discutant du libre. Utilisez le formulaire de contact et il vous enverra un lien pour la rencontre.
Et puis Julien et Delien, le tutoriel sur le langage C de Zest de savoir est dorénavant disponible au format PDF.
Pour ceux qui veulent apprendre à coder. Parmi les podcasts, citons cet épisode de Le Code a changé, qui parle des fous qui archivent le web.
Si vous vous ennuyez toujours, pensez aux chaînes YouTube sur le rétro-computing avec Retroman.
Retroman Cave.
Oui, Retroman Cave et Adrian's Digital Basement.
Yeah.
Le Framasoft fait un retour sur le premier confinatelier et annonce un second pour le samedi 6 juin.
Et en parlant de Framasoft, ils éditent aussi des livres, hein, on vous en avait parlé. Et Framabook sort du coup 4 livres d'un coup.
Vous pouvez aussi découvrir la littérature du code qui fait vibrer la littérature jusqu'à son hydratation.
C'est dur à dire.
Ouais, et 3 textes de clandestins, 5 niveaux de lecture du code et des outils libres, une théorie des arts numériques, l'historicité d'une textualité, des boucles infinies, de l'erreur du verbe électrique et une brèche sur le monde qui vient. Voilà la littérature qui se dévoile.
Alors c'est littérature parce que ça utilise Git justement.
Ah ok.
C'est
ah,
Git-up. Bon, des gens bizarres.
GitHub. Ouais.
Voilà. On passe à Astrologue Geek.
Allez, je frotte la boule de cristal. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, Maker, j'ai comme l'impression que ma vie défile.
Non, là, il faut sortir, c'est le déconfinement.
Démo Maker, mince, j'étais presque prêt pour ma démo de la VIP.
Électronicien, j'ai voulu m'inscrire dans la résistance, mais je n'avais pas les capacités.
Procrastinateur, si la télé pouvait travailler pour moi.
Télétravailleur, le pêcheur à sa ligne et je travaille en ligne.
Waouh!
Oh là là!
Merci, amis auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve dimanche prochain, la même heure, à midi, sur Radio Mega.
Avec Roudoudou, je pense qu'on l'aura retrouvé.
Oui!
On enverra l'hélicoptère au pire.
Voilà! À très bientôt! Salut!
Merci, Maître Belle! À bientôt! Salut!
À bientôt. Au revoir!
Ciao, ciao! We'll be right back.